D'accord. Tom, alors les amis, voilà pour les minutes qui nous restent, le temps qui nous reste, on va parler un petit peu quand même de l'Agba Omer. Alors, je ne vais pas refaire ce qu'on avait déjà parlé il y a longtemps de toutes les sources claires et moins claires qui nous expliquent que, évidemment, ça c'est des choses qui sont maintenant connues, que les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts d'un rhume, voilà, c'est pas shoot, que le deuil pour les élèves de Rabbi Akiva, c'est évidemment pas parce qu'il y a eu une guéfa, mais c'est parce qu'ils étaient parmi les combattants de Bar Korva. Et en fait, le deuil, il n'est pas pour les 24 000 élèves qui sont morts. Parce que c'est rien du tout. Sans vouloir enlever le drame de chaque famille des 24 000 élèves.
Je crois que c'était la totalité de ses élèves.
C'est la totalité de ses élèves. Et alors?
C'est 100%.
De ses élèves? Oui, non, mais c'est. Je veux dire, 24 000 personnes qui meurent, c'est grave, c'est pas bien. Mais.
Même le chiffre 24 000, là, pour moi, c'est un petit peu exagéré, non?
Même
le chiffre 24 000, ça me paraît énorme. Hein.
Non, parce que ce qui te paraît énorme, c'est quand on te l'a vendu au GAN, c'est qu'il avait créé une yeshiva extraordinaire où il y avait 24 000, 12 000 chavrutot. Seulement, c'est parce qu'il y a marqué dans la Gemara. La Gemara nous a dit que Rabbi Akiva, il avait Shtem Asar Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva, mais tout le monde oublie les deux mots qui suivent. C'est marqué là, dans Yevamot Samirbet, et Amrou, Shtem Asar Elef Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva, et on ne veut pas dire les trois mots qui suivent. Migivat ad Antipatris. Ça veut dire de Ashdod jusqu'à Naharia.
Vous avez raison.
Ouais, ils étaient tous ensemble. Donc tu as compris que c'était pas qu'il a fait une yeshiva et c'était tous ses élèves à la yeshiva. Pas du tout. Il y avait des élèves dans tout le pays. Et il y en a peut-être qui ont rencontré Rabbi Akiva une fois, deux fois.
Des adeptes.
Ouais. Il est venu donner un chiour et les gens ils ont dit ah, il est bien ce rabbin. Et c'est devenu les élèves de Rabbi Akiva. Nous, ça a l'air. Donc déjà, ça remet les choses un peu dans leur contexte. Deuxièmement, 24 000 personnes qui meurent, c'est grave, c'est malheureux, à Koltov, enfin à Kolra, juste comme tu le veux, et je me mets avec tout le drame des familles. Mais enfin, si on devait créer des périodes de deuil à chaque fois qu'il y a 24 000 personnes qui ont chopé un rhume et qui en sont morts, les amis, on a eu quand même des périodes vachement plus meurtrières en termes de maladie que ça. Il y a fait. Si tu fais... Là, maintenant, t'as bien cherché loin, il y a plus que 24 000 juifs qui sont morts du corona. Dans le monde.
Bien sûr.
J'ai pas entendu les différents rabbins dire que maintenant il faut faire une période de deuil. Allez, on va inventer de. Ça a commencé quoi? En décembre? Alors, de décembre à février, y'en
a.
Tu vois, t'es déjà en train de me faire une marloquette sur quand est-ce qu'on va faire le deuil. C'est pour ça, les Ashkenazim, ils commencent à truquer. Tu comprends? Maintenant, Barou, au 14e siècle, il y a eu la peste noire.
Il y a toujours eu des
épidémies. Non, mais voilà, et il y a plus que 24 000 personnes qui sont mortes de la peste noire. Et t'en as pas fait un deuil national.
La grippe espagnole, déjà, ça, 10 millions.
Déjà, la grippe. Non. Encore une fois, c'est pas la peine de me faire une liste. C'est Barou. La Shoah, c'est pas mal aussi.
C'est pire.
Et t'en as pas fait une période de deuil. T'as fait Yom HaShoah.
Un jour.
Yom HaShoah. Et là, tu me dis, pour 24 000 mecs qui ont chopé un rhume, alors, ça y est, pendant toute la période du Homer, qui est une période magnifique, en vrai.
Et en plus, il est contesté, Yom HaShoah.
Et en plus, il est contesté. Alors, ça c'est génial.
C'est incroyable.
Mais non, mais ça, c'est fantastique. Yom HaShoah est contesté dans certains milieux. Mais dans certains milieux religieux. Pourquoi il est contesté? Mais parce que c'est en Nissan. C'est le 27 Nissan. Or, on n'a pas le droit de s'affliger en Nissan. Ça ne te dérange pas d'être affligé pour le Homer? Ah, ça t'a pas dérangé. C'est
parce que ça doit être le dit Tevet, non?
Non, deux secondes.
Mais les Jésus-Canals, ils sont pas
temps mort. La raison officielle. Si je t'ai dit, c'est la deuxième partie. La raison officielle.
C'est pas sympa d'avoir mis des gâteaux comme ça, c'est pas.
La raison officielle de pourquoi certaines parties du monde religieux ne se revendiquent pas en deuil à Yom HaShoah, la raison officielle, c'est qu'ils te disent qu'il ne fallait pas donner cette date-là parce que c'est le 27 Nissan, c'est durant le mois de Nissan. Or, durant le mois de Nissan, on n'a pas le droit d'être en deuil, on ne fait pas Tachanoun et tout ça. Ok, ça c'est la raison vraie, pas officielle. La raison vraie, c'est parce que ça a été décrété par la Knesset et ça a été décrété par des gens qui n'étaient pas religieux. Et donc. là-dessus, ils ont dit non, mais on va mettre un autre jour religieux à Asara Betevet. Et c'est vrai, la Rabbanout, elle a mis aussi que Asara Betevet sera le Yom HaKadish HaKlali, mais ça a été mis en place plus tard. Maintenant, pourquoi je dis que c'est une grande blague cette histoire de on peut pas faire Yom HaShoah en Nissan? Parce que ça les a jamais empêchés d'être en deuil depuis le 23 Nissan pour le Homer.
Ils sont pas, pas les Ashkenazes.
Oui, mon ami. Non. Uniquement les Polonais Hasidim commencent à partir de Rosh Chodesh, le deuil du Homer. Mais la majorité, les Ashkenazim, l'Itaïm, qui sont les premiers à avoir crié sur Yom HaShoah, eux, ils commencent à partir de la fin de Pessah, quoi. Donc, c'est une grande blague. De toute façon, c'est vadaï que ça n'a rien à voir avec ça. 24 000 personnes qui meurent, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est grave, c'est dramatique, ce que tu veux. Mais compare ça à 1 million de juifs qui meurent. Au début de l'exil, au fait que Jérusalem, on n'a plus le droit d'y habiter, qu'on n'a plus le droit d'habiter dans une ville où on pourrait voir Jérusalem, que Jérusalem s'appelle maintenant Alia Capitolina, qu'au niveau du Beth Amikdash, on fait un temple de Vénus, que la Judée ne s'appelle plus la Judée, mais s'appelle Palestina. Oui, là, peut-être que ça vaut le coup de faire un deuil. C'est-à-dire, donc, effectivement, le deuil national de cette période-là, en fait, n'a rien à voir avec les élèves, la mort des élèves de Rabbi Akiva en tant que tel, mais elle a à voir... Avec quoi ? Avec la guerre. Et ça, oui, ça vaut le coup de faire un deuil. Parce qu'il n'y a pas eu d'événement plus traumatisant pour le peuple juif que la défaite de Bar Kokhba. C'est vrai ? Archav. Bon, maintenant qu'on a fermé cette parenthèse, ça, on le sait, pas de problème. Je voulais en fait parler d'autre chose. Je voulais parler... voilà, on va voir l'Ag BaOmer. Et donc l'Ag BaOmer, il y a le côté Bar Kokhba, Gvura. Et c'est la raison pour laquelle le minag de l'Ag BaOmer, c'est quoi ? Tire à l'arc ? Pas les feux. Pas les marshmallows. Le minag d'origine, c'était Chetz Vakeshet. Mais vadaï, c'est voir Katou Bepnei Issachar, c'est Katou Bepnei Mekomot. Pourquoi ? Alpi Apasuk, Sefer Shmuel, Lelamed Bene Yehuda Keshet. C'est ce jour-là qu'on apprenait aux Juifs à se battre. Lama ? Parce que Diocasius, l'historien romain, il nous dit, alors lui, il ne dit pas l'Ag BaOmer, mais tu fais des regroupements et tu comprends que c'est l'Ag BaOmer, qu'il y a eu un jour, au début de l'été, où il y a la 22e légion romaine qui est rentrée en entier dans le terrain de Bar Kokhba, et il n'y a pas un seul légionnaire qui est sorti en vie. On a eu une victoire éclatante ce jour-là, à tel point que César, Adrien, au Sénat, a changé son discours d'entrée au Sénat, et il n'a pas dit « paix sur moi et sur mes légions ». Donc c'était... Pendant la guerre de Bar Kokhba, une date de grande victoire. C'était notre Gergovie à nous. Bon, après, il y a eu Alésia. Bon, d'accord. Mais tu sais bien que les Gaulois, ils ne savent pas où c'est Alésia. Ils ne connaissent que Gergovie. C'est pas shoot. Donc, c'est pareil pour nous. On connaît l'Ag BaOmer et la victoire contre la 22e Légion. La fin du film, on ne veut pas en parler. Bon, ça, c'était le côté l'Ag BaOmer. Mais l'Ag BaOmer a pris une nouvelle dimension... 70 ans plus tard. Puisque 70 ans plus tard, et j'ai aucun problème de dire qu'il s'agit d'un tikkun, c'est la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'élève de Rabbi Akiva de la nouvelle génération. C'est-à-dire que la Gemara nous dit une fois que tous les élèves sont morts, Rabbi Akiva a formé 5 nouveaux élèves. Et ces 5 nouveaux élèves, c'est d'eux que toute la Torah nous a été transmise. Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yose Ben Chalafta, Rabbi Elazar Ben Hanania, Rabbi Meir Balanes, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont les 5 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar Ben Chamoua, j'ai dit Ben Chamoua, Ben Chamoua, c'est vrai. Les 5 élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, deux, on va étudier toute la Torah. Et j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'ils viennent nous apporter. D'autant plus que hier, c'était la Hiloula de Rabbi Meir, et demain soir, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon. Et juste avant de m'arrêter sur eux deux secondes, j'aimerais d'abord qu'on passe sur les 3 autres, qui sont les mal-aimés. Je ne connais pas beaucoup de grand-mères marocaines qui allument une bougie pour Rabbi Elazar Ben Chamoua. Et c'est pas cool pour lui. Il est bien aussi.
Je ne connais pas, mais...
C'est un pote.
L'ami de la famille.
Parce que je connais beaucoup de grand-mères séparates qui disent « Bimé Baranès », mais combien disent « Bimé aussi Bahamzda ». C'est Chaval, Magialo. Rabbi Yehuda Barilaï, c'est Isha Halakha. 80% de la Halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Et pas comme Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Meir. C'est lui...
C'est la question.
Non, c'est...
Il y a bien une raison.
C'est mal aimé,
c'est mal aimé. D'abord, tu sais très bien que les rabbins qui sont plus dans la halakha, c'est pas les mecs les plus. C'est pas pour eux qu'on allume des bougies. Tu vois. C'est... Ils sont pas contents. Je connais pas beaucoup de gens qui allument des bougies pour le chazon ish.
Ils sont catholiques. Les deux autres, ils font plus de miracles.
Je sais pas. Je sais pas.
Baanès, Rabbi Shimon, c'est aussi.
Bah, il a pas fait tellement de miracles à son époque. C'est-à-dire, faut voir. Ah, moi, je veux pas enlever du mérite ni de Rabbi Yehuda, ni de Rabbi Yossi, ni de Rabbi Elazar. C'était des gens très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont donné ? Rabbi Yehuda, on a dit, c'est Halakha. Zetorat an Machinikra, au niveau de la Kabbalah, c'est Anefesh. C'est ce qu'il faut faire.
Avec le Mayan Amit Gaber et tout ça.
C'est non, ça, c'est les élèves de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Il y en a 5 aussi, mais c'est pas les mêmes. C'est, on peut pas toujours. Donc, Rabbi Yehuda Barilaï, c'est Isha Halakha. Ensuite, on a Rabbi Yosef ben Khalafta. Rabbi Yosef ben Khalafta, il nous a enseigné quelque chose de fondamental. C'est lui qui écrit le Seder Olam. C'est-à-dire, c'est lui qui écrit la Sharsheret HaDorot depuis Adam Harishon jusqu'à nous. C'est-à-dire que Rabbi Yosef ben Khalafta, sa Torah, c'est de dire, Abotai, on n'arrivera pas à avancer si on ne sait pas vraiment d'où on vient. Donc, si tu veux, Rabbi aussi, c'est à Ruach chez l'âme Israël. Rabbi Lazar ben Shamua, c'est Isha Shalom. C'est la majorité de ces memrot dans la Gemara et dans la Mishnah parlent de Ashkanat Shalom ben Adam Lechavero. La bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle ne peut résider que dans la Shalom. Et puis on arrive à Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les opposent. Tous les opposent. C'est les deux stars. Mais tous les opposent à plein de niveaux. D'abord, d'un point de vue purement historique. Bon, d'abord, juste deux secondes. Tout le monde a bien compris que si on devait les situer en termes de timing, 150. Ok ? C'est plus ou moins les années 150. Rabbi Akiva meurt en 135. Les années 150, c'est les moments où il commence à bosser sérieusement ses élèves. La génération d'après, tous ces mecs-là, ces cinq, ils ont plein d'élèves, dont un très connu, Rabbi Yehuda Anassi. C'est-à-dire, donc, c'est eux qui vont amener à... Non, Tanaïm. Tanaïm. Maintenant, donc, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils sont, avec leurs copains, la génération de la reconstruction. On est juste après le drame de Bar Korva, il faut reconstruire Am Israël. Et, semble-t-il, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, ils prennent sur eux la reconstruction concrète du Am Israël, physique. Rabbi Shimon et Rabbi Meir s'occupent d'autre chose. L'un s'occupe de donner l'espoir de la Géoula et l'autre s'occupe de donner la recette pour atteindre cet espoir-là. Mais j'ai dit tous les opposent. D'abord, au niveau purement historique. Il y en a un où tout est clair, et l'autre, tout est foncé. Ou du moins, pas clair.
Mais Rabbi Meir, il n'est pas clair.
Rien n'est clair chez Rabbi Meir. Chez Rabbi Shimon, on sait qui c'est pour de vrai. On sait qui c'est lui, et on sait qui c'est son père, on sait comment il s'appelle, on sait d'où il vient, on sait où est son tombeau, on sait quand est-ce que c'est sa Hiloula, tout est sûr. Rabbi Meir, au niveau historico, archéologico, truc, c'est pas clair. Premièrement, c'est pas clair dans le Talmud qui s'appelle Rabbi Meir. Et Cholot qui s'appelle Nehorai. Et que le Talmud, il dit Karulo Meir, parce que son enseignement, il éclairait. Et déjà, un, c'est pas clair. Deuxièmement, son tombeau. Jusqu'au 19e siècle, personne ne savait que c'était le tombeau de Rabbi Meir à l'endroit où il y a le tombeau de Rabbi Meir.
C'est où ?
À Tibériade.
Je suis allé.
Ok. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, ça fait. Laïloula, pareil. C'est arrivé dans les années 1850-60. Pourquoi est-ce que personne n'a pensé à faire l'Aïloula de Rabbi Meir avant ? Pas clair. Non, je rentre pas dans.
Il avait une femme formidable.
Il avait une femme formidable, ça c'est sûr. Ça on la connaît. Mais c'est pas clair de pour. Et je vais pas rentrer dans le débat que disent certains archéologues, historiens, que c'est certainement pas Rabbi Meir qui est enterré là-bas. Et que l'Aïloula, c'est certainement pas l'Aïloula. Du moins, il y a une chance sur 365 que ce soit la bonne date. Mais.
C'est pas très important ça.
Alors justement, on va y arriver. Certains disent que. L'endroit et la date ont été mis en place à partir du moment où les Juifs ont commencé à revenir à Galil et qu'ils allaient tous sur le tombe de Rabbi Shimon pour l'Akba Omer. Les gens de Tveria, ils étaient un petit peu vénères que tout l'argent aille là-bas. Et donc, ils ont mis en place, 4 jours avant, une Iloula chez eux. Comme ça, les gens, ils sont obligés de... Je ne veux pas rentrer là-dedans. Parce que Behemet, c'est lo chashuv. Pourquoi c'est lo chashuv ? Parce que Am Israël... Il a décidé de s'attacher à Rabbi Meir à ce moment-là et à cet endroit-là. Et donc, même s'il y a un problème historico-archéologico, Am Israël, il a décidé que c'était là-bas, il n'y a rien de plus important que ça. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi la tradition d'Israël, elle a mis Rabbi Meir juste avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça, c'est la vraie question. Rabbi Meir Balanes, sans rentrer dans tous les détails de ce qu'il a fait, de sa Torah, c'est pas l'homme de la halakha. On n'est pas possède comme Rabbi Meir en général. Lama, parce qu'on dit le Shulchan Aruch, lo yardu chaverav le sof da'ato. C'est qu'on n'arrivait pas à comprendre, pas ce qu'il voulait dire, mais d'où il arrivait à ça, sa logique à lui. À tel point que nous dira la Gemara que dans son Sefer Torah à lui, coûte notre or, les tuniques de peau que Dieu a fait à Adam et Chava, c'était marqué avec un aleph. Coûte notre or, des tuniques de lumière. C'est-à-dire que lui, il a une vision qui est complètement différente. Il est Meir. Il est celui qui éclaire. C'est-à-dire que Rabbi Meir, sa Torah, c'est la Torah qui est capable d'allumer la lumière. C'était qui son maître à Rabbi Meir ? Donc il y en avait deux. Il y avait Rabbi Akiva, évidemment. Et l'autre, c'était qui ? Il n'y a pas bonne presse. Il s'appelait Elisha Ben Abouya.
Acher.
C'est-à-dire quelqu'un qui a rejeté finalement toute la Torah. D'ailleurs, Rabbi Meir, c'est quoi son petit surnom dans la Gemara et dans la Mishnah ? Des fois, on l'appelle Rabbi Meir et des fois, on dit Acherim Omrim. Acherim Omrim, c'est Rabbi Meir. Par rapport au fait que il était l'élève de Acher. Mais attendez, comment on... Non, nous dit la Gemara, oui, bien sûr qu'il était l'élève de Acher. Er, Tocho Achal Veklipato Zarak. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il est capable de dire, je sais très bien qu'il y a plein de problèmes avec lui, mais il y a des choses aussi à prendre. Et donc, moi, je suis capable de prendre ce qu'il y a à prendre et de jeter ce qu'il y a à jeter.
C'est vachement fort.
Ah oui, c'est vachement fort. C'est être capable de... Oui, mais tout, complètement, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est pour ça que c'est Rabbi Meir. Mais c'est pas rien. C'est pour ça que c'est Rabbi Meir. T'as remarqué qu'il est Meir, il est clair. D'accord ? Deux secondes, quand t'allumes une lumière... Celui qui éclaire, il allume la lumière. Quand tu allumes la lumière, de facto, tu crées de l'ombre. Avant qu'il y ait la lumière, il n'y avait pas d'ombre. Là, maintenant, il y a de l'ombre. Donc, il est tout à fait conscient, Rabbi Meir, qu'il y a de l'ombre et je suis capable, moi, de prendre la lumière et de ne pas prendre l'ombre. C'est ça, sa Torah. C'est ça qu'il nous enseigne à nous. Être capable de voir dans toutes les situations là où il faut prendre la lumière et pas prendre l'ombre. Et c'est ça qui va permettre à Israël à passer. C'est-à-dire quoi ? Le but de Torah ta Kabbalah, c'est de sortir d'exil. Puisque le but de la Kabbalah, c'est de ramener la Nevoa. La Nevoa, c'est Beret Israël, c'est la Shrina, c'est ce que vous voulez. Donc ça veut dire que pour arriver à la Géoula, il faut étudier Sefer HaZohar. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Le Sefer HaZohar lui-même, il se prend pas pour n'importe qui, et il dit, en étudiant ce livre chez où Sefer HaZohar, Yetsu Israël min galuta berachame. Le peuple juif sortira de son exil avec miséricorde. Lama. Parce que en étudiant ce livre, tu vas comprendre que tu ne peux pas te complaire en exil. Tu es obligé de repartir. Seulement, comment tu vas pouvoir arriver à ce livre ? Grâce à Rabbi Meir. Parce que ce livre, il va te mettre face à une réalité terrible. Que quoi ? Que la résurrection du peuple juif, des fois, elle va passer par des gens qui ne sont pas religieux. Qui amènent énormément d'ombre.
C'est écrit dans ça, des endroits ?
Quoi ? Que la Géoula, elle passe par des gens qui ne sont pas religieux, vadaï. Mais vadaï. Et c'est non seulement Katouf, mais Sifradit Sniouda, mais c'est le Pérouche du Gaon de Vilna sur le Sifradit Sniouda. Il dit comment ça se fait qu'il y a des Réchaïm dans le monde. Parce qu'ils font des choses que les Tzadikim ne sont pas capables de faire. Dans les faits, pourquoi est-ce que ce n'est pas les rabbins qui ont créé l'État d'Israël ? Il y a plein de rabbins qui ont dit exactement la même chose que Herzl 50, 60 ans avant lui. Et personne ne les a écoutés. Pourquoi ?
C'est des rabbins.
Bah, d'abord, c'est des rabbins. Et deux, parce qu'ils ont eu, des idées. Mais comment est-ce qu'on les concrétise et qu'on les traduit en actes ? C'est-à-dire ? Donc, il y a des gens qui sont capables d'agir, pendant que d'autres sont capables de réfléchir et de penser. À un moment donné, il faut agir. C'est-à-dire ? Donc, au final, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une réalité. Rappelez-vous, et je termine par là, rappelez-vous l'enseignement de Rav Yosef. Pas Rabbi Yossi, mais Rav Yosef. C'est plus tard. Vous vous rappelez, alors on ne l'a pas encore vu, c'est dans la Gemara dans très bientôt, dans quelques cours, deux ou trois, on aura la fameuse sugya de tous ces rabbins qui ont peur du Mashiach, qui ont peur de l'avènement messianique. Et Rav Yosef, il est celui qui n'a pas peur. Et il dit, moi je suis non seulement prêt à ce qu'ils viennent, j'ai envie d'y arriver, mais mieux que ça, je suis tellement prêt que lorsqu'il viendra, je serai prêt également à m'asseoir à l'ombre des excréments de son âne. Mais c'est l'ombre des excréments de son âne. Mais c'est pas shoot. Dieu le grand de Vilna. L'ombre, c'est parce que... Alors, on va dans l'autre sens. L'âne du Mashiach, c'est le processus. L'âne dans la Gemara, c'est le moyen de transport. Donc c'est le processus de la Géoula, ça avance. Maintenant, comme tout processus, quand ça avance, il y a des déchets. C'est les excréments. Maintenant, tant que l'âne il avance, c'est ch'touillotte. Une petite crotte là, une petite crotte là, c'est honorable, personne ne fait attention à ça. C'est, oui, c'est de l'engrais. C'est même de l'engrais au final. Non, ça veut dire c'est cloum, c'est matel bechichim. Mais s'il arrive un moment où le processus il stagne, ben, ça s'accumule. Et ça peut même faire une montagne qui fait de l'ombre. T'imagines une montagne qui fait de l'ombre. Mais attendez, cette ombre, elle nous protège du soleil. Ou elle nous cache le soleil. Ben c'est gamme, vegam. Une montagne qui fait de l'ombre. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en hébreu ? Une montagne qui fait de l'ombre. Hartzell, tiens. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Une montagne qui fait de l'ombre. Nakhon. Parce que t'as pas l'impression, c'est parce que t'avais prévu. Mais attends, dans la Torah, moi je pensais qu'il y aurait des périodes énormes. Aval, ça fait avancer les choses. Et Akadosh Baruch Hu, il amène sa Géoula comme il a envie, pas comme moi j'ai envie. Et donc, si tu veux, pour arriver à voir la lumière là où il y a de l'ombre, là où il y a de l'obscurité, eh bien, le Tikkun HaZohar nous dit dans son introduction que la porte d'entrée, le test d'entrée pour la yeshiva du Mashiach, c'est est-ce que tu es capable de transformer l'obscurité en lumière et l'amer en sucré. C'est pas combien de daf de Gemara tu as étudié dans ta vie, c'est est-ce que tu es capable de voir la lumière là où il y a de l'obscurité ou pas. Et donc pour arriver à cette Torah de Rabbi Shimon, il faut être passé d'abord par la sadna de Rabbi Meir. Et voilà, Sheikh Hak Sameach Lekulam.